Il faut bien l'admettre, le vendredi saint est bien un vendredi différent des autres. Déjà, c'est férié. Bonne nouvelle. C'est aussi pour moi l'occasion de prêcher deux fois en une semaine et pour vous de me supporter deux fois plus que d'habitude. Mais il y a 2000 ans, Jésus n'avait pas non plus vécu un vendredi habituel. Et c'est bien parce que son vendredi à lui était différent que nous sommes rassemblés ensemble ce matin ici. Oui, c'est un vendredi que Jésus, notre Sauveur et Seigneur, est mort sur la croix. Le récit que je souhaiterais aborder avec vous ce matin se situe un peu avant la crucifixion et je remercie nos deux lectrices qui ont lu des textes complètement différents de ce que j'allais prendre. On se complète bien. Le texte que je vais aborder ce matin est justement un peu avant la crucifixion. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce qu'à mon avis, il a une saveur particulière. C'est un texte où Jésus est seul. C'est le dernier récit d'ailleurs où Jésus est seul. Il est seul avec son Père. Et après ce face-à-face, ce moment d'intimité, les choses vont s'enchaîner. Il sera arrêté, il passera la nuit d'un procès à l'autre et sera finalement cloué sur la croix. Mais le soir avant, Jésus se rend au jardin de Gethsémané. Et c'est là que je vous propose de le rejoindre. Je lirai donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 50. Là-dessus, Jésus se rendit avec ses disciples dans un endroit appelé Gethsémané et il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas et se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi ? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revient et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit approche. » Il parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyé par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Chaque fois que je lis ce passage, l'émotion qu'il véhicule me bouleverse. Ce texte me bouleverse pour deux raisons. D'abord, ce texte me fait entrer dans l'intimité de Dieu le Père et Dieu le Fils. Juste avant que tout s'enchaîne et n'aboutisse à la crucifixion, nous avons là un aperçu de l'intimité entre le Père et le Fils. Et la deuxième raison, c'est que c'est un moment clé du ministère de Jésus, et je pourrais même dire un moment clé pour l'histoire de l'humanité. C'est comme si tout se jouait ici, dans ce jardin, à Gethsémané. Comme si tout se jouait ici, dans cette communion entre le Père et le Fils. Dans ce jardin, c'est seul que Jésus se retire pour prier. Il est seul face à son Père. Les disciples ont prouvé par 3 fois leur incapacité à veiller. Le texte nous dit que Jésus avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière: « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce que Jésus vit à ce moment-là est intense. Jésus est en proie à la tristesse et à l'angoisse. C'est d'ailleurs le seul endroit dans les évangiles où on voit Jésus se prosterner. Ça montre bien ce qu'il est en train de vivre à l'intérieur. Jésus, le visage contre terre, seul face à son Père. Seul avec sa tristesse et son angoisse. Jésus qui demande que cette coupe s'éloigne de lui. Et ces mots sont forts. Que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe. Notez bien le déterminant. Jésus ne fait pas référence à une coupe quelconque. Il parle bien de cette coupe, celle-là. Ce n'est pas une coupe que tout condamné à mort doit boire. Ce n'est pas seulement la coupe du châtiment physique à venir. Non, cette coupe ne se résume pas simplement à un lot de souffrances ou une épreuve à traverser. Cette coupe illustre un objet bien précis. Et Jésus le sait. Et le Père le sait. Éloigne de moi cette coupe. Et pour bien comprendre de quelle coupe il s'agit, il faut ouvrir l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament parle de plusieurs coupes, mais il n'y en a qu'une seule qui est tendue de la main de Dieu. Et le prophète Jérémie nous la décrit ainsi. Voici ce que l'Éternel m'a dit, le Dieu d'Israël. Prends dans ma main cette coupe, remplie du vin de ma colère, et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. J'ai pris la coupe de la main de l'Éternel. Cette coupe, Jésus le sait. C'est le vin de la colère de Dieu. Dans ce jardin à Gethsémané, Jésus est ici, prosterné face contre terre, et en face de lui, cette coupe remplie du vin de la colère de Dieu. Et depuis l'époque de Jérémie, cette coupe s'est à nouveau remplie à ras-bord. Les hommes n'ont rien appris de leur péché. Cette coupe pleine, quelqu'un doit la boire. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les nations, comme c'était le cas au prophète Jérémie, alors que ces nations l'avaient bien mérité. Ce qui est particulièrement dur ici, c'est que cette coupe, elle n'est pas tendue par un disciple, ni par un chef religieux, ni encore par un soldat romain. Cette coupe n'est pas non plus tendue par le diable. Cette coupe est tendue par Dieu le Père. Et dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit: « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Chers amis, ce qui se passe en ce moment à Gethsémané est impensable. Ce qui est en train de se passer, c'est que Dieu tend la coupe de sa colère à Dieu lui-même. Dans ce moment d'intimité entre le Père et le Fils, Dieu tend la coupe de sa colère au Fils. Et quand nous comprenons le contenu de cette coupe, nous comprenons aussi la supplication de Jésus. Si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Combien est-ce que nous comprenons ce souhait ? Mais c'est peut-être plus qu'un souhait, c'est une réelle possibilité. À Gethsémané, Jésus n'est pas confronté à une fatalité. Et j'ose croire que c'est bien sûr possible que cette coupe s'éloigne de lui. Dieu a tout pouvoir. Mais Jésus sait que sa mission est d'aller jusqu'à la croix. C'est là le plan qui s'est élaboré en secret au sein de la Trinité. Aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. D'ailleurs, l'éventualité de renoncer, Jésus l'a déjà balayée. À plusieurs reprises dans l'évangile de Matthieu, il annonce à ses disciples qu'il doit mourir et ressusciter. L'éventualité de renoncer était balayée par Jésus. À ce moment-là, dans le jardin de Gethsémané, Jésus sait qu'il doit aller jusqu'au bout. Mais ça n'enlève rien à la tristesse, ça n'enlève rien à l'angoisse, ni à l'épreuve qu'il est en train de traverser. Et conscient de sa mission, Jésus poursuit sa prière en affirmant « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dans ce moment de tension intense, Jésus s'en remet au plan initial. La prière de Jésus n'est pas longue, mais qu'est-ce qu'elle nous apprend sur lui, sur son combat à Gethsémané et sur sa volonté d'obéir au Père. Et à propos du Père, on pourrait s'attendre à une réponse de sa part. Surtout dans ce moment crucial, mais le Père ne dit rien. Pas un mot. Alors qu'au baptême de Jésus, à la transfiguration, le Père n'a pas hésité à affirmer l'identité du Fils. Mais ici, à Gethsémané, le Père ne dit rien. Pourtant, dans ce moment d'intimité, je n'arrive pas à imaginer un Père absent ou indifférent. Si le Fils a saisi la coupe tendue, il n'a pas été facile pour le Père de la lui tendre. Mais tous deux, le Père et le Fils, dans la communion du Saint-Esprit, sont face à face. Dans un amour profond l'un pour l'autre, tous deux conscients que notre avenir à nous se joue là, dans ce jardin. Certains commentateurs peu éclairés ont affirmé à propos de ce silence du Père que Dieu était sadique et vengeur. Permettez-moi de vous propose une autre interprétation. Le silence du Père n'affirme pas son inaction. Et d'ailleurs, on voit le Père agir puissamment. À Gethsémané, nous avons Jésus en proie à la tristesse, à l'angoisse, il le dit lui-même. Mais quand vous lisez le récit de la Passion, dès que Jésus est arrêté, le temps change. On trouve à nouveau Jésus plein d'assurance et de force pour répondre aux accusations qui lui sont données. J'ose voir là l'intervention du Père en faveur du Fils. Le Père donne sa force à Jésus. Il n'y a pas de mots à ajouter, mais le Père agit. Le Père ne donne pas une force à Jésus pour vaincre les soldats et partir libre. Il lui donne la force de boire la coupe entièrement. Est-ce que Jésus a bu cette coupe entièrement ? L'apôtre Paul répond à cette question de manière claire. Il dit dans l'Épître aux Romains, « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. » Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Oui, tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ça, c'est notre rétribution juste. Mais ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier nos péchés. Et certaines traductions disent « pour éloigner la colère de Dieu ». Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impuni le péché commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans les temps présents, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Alors oui, Jésus a bu la coupe entièrement. Cette coupe qui lui était tendue à Gethsémané nous était destinée. Justement. Mais Jésus l'a bu à notre place. Il l'a bu jusqu'au bout. Il n'a pas renoncé. Parce que Jésus a bu la coupe que le Père lui tendait, nous avons à notre tour la grâce de pouvoir boire à une autre coupe. Cette coupe de la Nouvelle Alliance. Oui, Jésus est bel et bien mort sur la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et nous n'avons rien à ajouter. Amen.